Seul dans les combats. Seul dans les combats. Dans les combats. Et nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. On va retirer quelques pensées, quelques points importants de ce texte-là. Et vous allez voir, ça va nous encourager. Hein. On est là pour être encouragés. Amen. Voilà, donc Jérémie, Pascaline, Jérémie, c'est pas dans le Nouveau Testament, hein, c'est l'Ancien, hein, d'accord, c'est bon. Jérémie chapitre 19, le verset 14 et 15, et on va continuer donc ensuite le chapitre 20 jusqu'au verset 9, d'accord. Donc 19, 14, 15... Et ensuite 20, chapitre 20, on va continuer jusqu'au verset 9. Pascal, est-ce que c'est toi qui vas nous lire? Ta voix porte bien, donc si tu veux bien. Hein. Donc 14, 15, et puis qu'on continue le chapitre 20 jusqu'au verset 9. Donc suivez bien, parce qu'après on va retirer quelques pensées, excuse-moi.
Non, non, je t'en prie. Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter mes paroles. Je ne peux pas aller plus loin. C'est bon.
Je continue.
Pashur, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pashur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Pashur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor, Mizabib. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pashur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras. Et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as convaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car tous les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis.
Alors voilà, donc on va retirer une pensée seule dans le combat. Pourquoi ? Puisque vous allez voir, il y a des moments comme ça, même pour nous, qu'on a l'impression que personne ne nous comprend. Ce matin, on s'est réveillé, je me suis réveillé un peu plus tôt, et Christiane ensuite, voilà, elle arrive et je dis « ça va ?» A bien dormi. Bon, avec le décalage, c'est difficile le premier, deuxième jour. On est un peu assommé. Trois jours. Et elle m'a dit, eh ben, j'ai mal au pied. Mais seulement, moi, je ne sens rien du tout. Hein. Je ne ressens pas ces douleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, je te crois. Bon, t'as mal. Mais bon, moi aussi, je vis avec des douleurs, pas mal de faiblesses dans mon corps par-ci, par-là. Hein. Comprenez? Et on écoute, on croit, mais nous sommes souvent avec Brigitte au téléphone, même quand on était là-bas aux États-Unis, puisque vous savez, elle a le cancer et elle va passer par l'opération le 14 août, donc pensez à elle, c'est le cancer au niveau des poumons. Et elle nous parle, encore hier dans la journée, hier après-midi, je pense, on s'est parlé au téléphone. Et elle m'a dit, mais Antoine, je ne sens rien du tout, j'ai pas mal, je suis vraiment bien. Voilà, mais les examens, tout ce que la médecine a trouvé, ben voilà, c'est l'opération. On fait pression sur elle parce que ça avance. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle nous parle, mais on ne peut pas sentir sa souffrance, son combat, voilà. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne comme ça, où voilà, il y a un cancer, il y a eu l'opération, et puis il y a un deuxième, voilà, ça voyage, ça va plus loin. Et oui, nous prions, oui, nous encourageons. Mais elle est celle dans son combat, au niveau de son corps. On est d'accord? Et combien vous, chacun d'entre vous, vous avez des difficultés? Il y en a tellement. Je me souviens, nous étions aux États-Unis, puis avec Amélie, nous avons pu visiter aussi des chrétiens, des personnes là-bas. Nous avons pu prier avec les uns et les autres. Et nous étions donc dans une famille, et là, il y avait une jeune fille, elle avait 16 ans. 17 ans. Voilà. Et cette jeune fille, elle était là, on mangeait ensemble. Donc nous étions 4 adultes, 5 parce qu'Amélie. Et puis cette jeune fille, elle ne trouvait pas sa place avec nous. Vous comprenez, hein? Une jeune fille, 17 ans, avec les cheveux gris à côté, bon, ça va 5-10 minutes, mais pas plus. Hein? C'est comme ça. Hein? Mais finalement, il y avait quelque chose de plus que ça. Cette jeune fille, voilà, elle grandissait dans une famille, bien sûr, chrétienne. Voilà, elle allait au culte, comme nos enfants. Et puis tout à coup, 14, 15, 16, 17 ans, et puis on découvre autre chose. Et puis dans un an, on aura 18 ans. Et on va dire, bon, les parents, c'est moi qui décidera. Hein. Pour le moment, vous m'encouragez, je dois vous suivre. Voilà, tout ça se passe dans sa tête. Et puis nous avons mangé ensemble, nous avons discuté ensemble et je voyais que cette jeune fille, elle était mal à l'aise avec nous. Mais en même temps, je sentais que c'était spirituel. Je savais que c'était une âme à sauver. Vous comprenez, on est invité, nous mangeons ensemble et nous avons une âme, c'est une âme, 17 ans, 20 ans, 40 ans ou 70 ans, c'est une âme, une vie. On est d'accord? C'est une vie. Et puis j'ai commencé donc à diriger nos conversations pour que cette jeune fille puisse entendre quelque chose, un message, parce que je la voyais qu'elle n'était pas avec nous. Et voilà, j'ai raconté les histoires de ma vie, parce qu'on nous a posé la question. Donc, voilà, mon objectif, c'était la jeune fille. J'étais là pour quelque chose. Et voilà, donc, le temps passé, etc. J'ai donné mon témoignage, j'étais jeune, et puis voilà ce qui s'est passé dans ma vie. J'avais des difficultés. J'ai raconté un peu nos expériences dans la famille, avec nos enfants, l'église, les combats. Mais Dieu était toujours là. Puis, combien je suis heureux aujourd'hui parce que Dieu nous a aidés. Dieu était là. Et cette jeune fille, elle avait son téléphone là, puis en dessous de la table, vous comprenez. Elle, ça chauffait là, en dessous. Mais en même temps, elle écoutait. Et à la fin, on va se dire au revoir. Hein, on ne sait pas si on va se retrouver. Et la jeune fille, elle me regarde avec les yeux luisants. On peut dire ça comme ça. Elle me regarde. Elle me dit, j'aimais bien tes histoires. Ah, j'ai dit, Seigneur, nous avons tout gagné. C'était son combat. La mère, elle est à côté, et puis elle, arrête, reste là. À un moment, elle voulait bouger, hein. Elle a mangé, puis elle voulait partir. Reste là. Et puis à la fin, ah, j'aimais bien tes histoires. Et je lui ai dit, tu es déjà venu en France? Ben, c'est une âme, ça nous coûte, hein. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Pour moi, quelqu'un a payé cher. Hein. Vous savez qui? Ah ben, Jésus, il est monté sur la croix pour moi. Il n'avait pas besoin. Alors moi, ma passion, ma responsabilité, c'est aussi partager avec les autres. Ah, il dit, non, t'aimerais bien venir en France? Elle dit, oui. Et puis ça se discute, c'est possible qu'ils vont tous venir ici pour le nouvel an. Vous comprenez? Il y a des rendez-vous divas. Et c'est son combat. La mère, elle pense qu'en la secouant, en la forçant, c'est trop tard. À 17 ans, il fallait faire le travail avant. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et il y a des combats personnels. Mais nous sommes là pour apporter des solutions. Amen. À la fin, je vais vous donner encore un témoignage aussi de ce que nous avons vécu là-bas. Mais on revient à Jérémie. Le prophète Jérémie, quelle était sa mission? Vous avez entendu quand Pascal disait? Dieu lui a demandé quoi? De prophétiser. D'accord? Jérémie revient de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé pour faire quoi? Prophétiser. Et puis quelle était la prophétie? La parole prophétique pour le peuple Israël, c'était souvent « Attention, si vous vous éloignez de Dieu, c'est la perdition. Attention, si vous continuez, il y a des risques, il y a le danger, il y a la mort. » Et ici, il y avait aussi un message spécifique. Si ça continue comme ça, il y aura donc le malheur et sur vous si vous n'écoutez pas quoi? La parole de Dieu. Si on n'écoute pas, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on se découvre de la bénédiction et puis ensuite la malédiction arrive facilement, hein, tout seul, comme ça. C'est pas la faute de Dieu, c'est parce que on sort de la bénédiction. Si on sort de la bénédiction, vous comprenez, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? C'est la malédiction. Donc Jérémie avait un message percutant. Voilà, la mission de Jérémie, c'était annoncer, exhorter, interpeller, convertissez-vous, changez vos vies. Hein. Il y a d'autres messages aussi. C'était souvent ça. le message du prophète Jérémie. Et puis ensuite, donc, deuxième point qui est important aussi, Jérémie se retrouve en prison. Pourquoi ? Vous avez entendu, hein ? Le verset 2, chapitre 20, le verset 2. Vous voyez ? Et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était la porte supérieure, etc. Voilà, il était en prison. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez compris ? Parce que Jérémie aimait Dieu. C'est une chose. Parce que Jérémie prophétisait. Parce que Jérémie apportait la parole de Dieu qui interpellait. D'accord ? Alors voilà, on prend Jérémie, on le met en prison. C'est incroyable ça, hein ? Donc vous voyez, Jérémie se trouve en prison parce qu'il annonçait, parce qu'il prophétisait et annonçait la parole de Dieu, la vérité, si vous voulez. Et puis ensuite, troisième fois, un point important aussi, Jérémie se trouvait seul au sein d'une opposition. Il était tout seul. Vous avez remarqué ? Il était tout seul dans le combat. Oh, il était tout seul. Il a reçu un appel pour annoncer et il se retrouve tout seul. Tout seul. À cause de la prophétie, à cause de la vérité. C'est une épreuve des moments difficiles. D'accord ? Jérémie passe par des moments difficiles. C'est une épreuve pour lui. Il annonce la parole de Dieu, on le persécute, on le met en prison, on le bat, etc. C'est une épreuve. Il passe par une épreuve. Alors, à cause de tout ça, vous avez compris que Jérémie était dans un état de révolte, rébellion. Il a discuté avec Dieu. Il s'est tourné vers Dieu pour dire, il y en a assez, c'est difficile. Mais il était sincère, il était transparent. Et il avait difficulté, on voit clairement, qu'il avait vraiment difficulté de surpasser ses combats, ses difficultés, ses épreuves. Ça va ? C'était Jérémie, hein ? Et puis ensuite, on voit les versets clés dans ce texte-là. C'est le verset 9. Nous dit, si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, de Dieu, vous voyez, il était tenté de s'arrêter, de fermer sa bouche, de ne pas parler de Dieu. Et il s'est dit, je ne parlerai plus en son nom. C'était profond, hein ? Ouh ! Un prophète. Il dit, je ne parlerai plus en son nom. Il était complètement déprimé. Le prophète Jérémie. Et pourtant, on parle toujours d'un homme puissant, un prophète, un homme de Dieu. Eh ben regardez dans l'état qui s'est trouvé. Mais qu'est-ce qui se passe plus loin ? Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Il y a dans mon cœur un feu dévorant, un feu qui est renfermé dans mes os. J'ai mes forces de les contenir, ça c'est l'homme, c'est humain. Il en avait marre, il était déprimé. D'accord ? Il a fait tout son effort pour s'enfermer en lui-même, je m'efforce de les contenir et je n'ai plus. Je n'ai plus. Parce qu'il y avait le feu en lui. Il aimait Dieu, d'accord ? Le feu symbolise souvent quoi ? Le Saint-Esprit. Le feu symbolise la présence de Dieu. Le feu symbolise l'action de Dieu. Le feu symbolise la puissance. Il y a une puissance dans le feu. Hein, vous voyez quand il y a le feu qui ravage quelquefois la forêt. Quelle puissance. Voilà. Donc le feu, le symbole voilà, d'une puissance, d'une force. Et c'est ce qui était donc dans Jérémie, cette puissance. Il y avait cette chaleur et il était tellement enflammé qu'il était encouragé et il s'est dit, j'essaye d'arrêter tout ça, mais il y a quelque chose en moi, c'était Dieu en lui, hein, le feu, le Saint-Esprit, Dieu en action était en lui et il ne pouvait pas faire le blocage. Il était encouragé pour aller plus loin. Alors, mes amis, je ne vais pas être trop long aujourd'hui, mais on va actualiser un peu cette histoire. Quelle est notre ambition ? Ben aussi, communiquer la vie là où il y a la mort. D'accord ? Ma mission, quand je me réveille, je regarde si ma femme elle est en forme, si elle est enflammée, si elle a le feu dévorant en elle. Et si elle est rebelle, qu'est-ce que je fais ? Je l'encourage, je ne lui donne pas une gifle. Je l'encourage. Quand elle va bien, je suis un peu dur avec. Mais quand elle va moins bien, je suis tellement gentil avec elle parce que, comprenez, c'est là qu'elle a besoin. Mais elle, quand elle se réveille, c'est un peu, je caricature un peu, mais ça se passe comme ça. Son objectif, c'est quoi ? C'est de m'encourager. Encore ici, elle m'a dit, je te vois un peu stressé, un peu arrogant, elle me parle comme ça, elle se permet de me parler comme ça. Mais je l'écoute. Elle a peut-être raison. Vous comprenez ce que je dis ? Parce que son rôle, c'est penser à son mari. Ça va, Karine ? Oh ! Elle feu, hein ? On se parle, nous, entre nous. Ne vous inquiétez pas. Oui, donc, quelle est ma mission ? J'ai mes enfants. Nous sommes allés aux États-Unis. Et puis voilà, j'observe, je regarde mes enfants, mes filles, mes petits-enfants. Et voilà, j'ai dit là, il faut donner un conseil. Là, il faut les encourager. Là, il faut leur dire quelque chose. Et puis ma chère fille Amélie, elle qui n'avait pas trop besoin, son père quand elle était ici, tout va bien. Et ça s'assied à côté de moi. Elle m'a dit, papa, est-ce que tu veux faire un petit tour avec moi ? Oui, oui. Puis on est parti faire un petit tour en voiture, à pied. Elle m'a dit des choses, elle m'a parlé. Et j'ai pu lui conseiller, j'ai pu lui parler. J'ai pu lui dire des choses où c'était peut-être assez dur pour elle. Parce que notre mission, c'est prophétiser la vie, c'est communiquer la joie, C'est encourager, jamais culpabiliser. Interpeller, attention, Satan est là, il veut te détruire. On est là, on va avancer. Comprenez? C'est ça notre mission. Et regardez, quand vous voyez dimanche au culte quelqu'un, ben c'est pas lui, hein, il est joyeux aujourd'hui, et vous voyez que Francis est un peu... Là, hein. Il n'est pas triste, hein, il est joyeux là. Pff, ça chauffe en lui là. Mais bon, vous comprenez, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher de savoir. Mais pourquoi il est triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va mon ami? Si ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je communique la vie là où il y a la mort. Parce qu'il y a des déceptions, il y a des combats, il y a des découragements partout. Alors quand j'ai vu Mado ici, là, alors j'ai dit, ça y est, elle va vouloir me parler. Mais j'aurais pu lui tourner le dos. Mais elle m'a montré un sourire. Ah, c'est formidable, on va s'encourager. Hein. On va s'encourager. On n'est pas là pour se stabiliser. D'accord ? Notre message, communiquer la vie autour d'elle. Ça va, c'est clair. Et puis voilà. L'objectif, si nous ne faisons pas ça, qui va profiter? Satan, le diable. Ah ben lui, il t'attend. Il m'attend. Vous avez entendu, certains parmi vous, par email, ce qui se passe avec... celui dans le sud. Philippe. Delplan. Vous avez entendu ce qui se passe? Certains parmi vous avez reçu par Fred les enfants. Il y a le combat, il est tout seul. Ceux qui sont autour de lui, ils ont besoin d'être encouragés. Alors Satan, il va faire quoi? Ah ben il arrive et il tape. Il veut briser un homme. Et parce qu'il pense, si je casse lui, ah ben les autres vont être découragés. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il est toujours là, puisque nous prions. Vous comprenez? Satan, il nous attend. Hein, parce qu'il veut nous détruire. Ce n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. D'accord? Donc, notre mission, communiquer la vie. Ensuite, vous avez vu Jérémie, il s'est trouvé en prison. Combien de fois nous sommes emprisonnés par des raisonnements? La tradition, la religion, nos raisonnements, etc. Nous sommes emprisonnés. Et Satan fait tout pour nous garder en prison. C'est un objectif, c'est ça son objectif. Et ensuite, vous avez vu que Jérémie était tout seul. Je vous ai expliqué, voilà, nous avons tous nos combats, nos difficultés. Qui parmi vous peut nous dire aujourd'hui, je n'ai jamais de combat, j'ai besoin de personne, tout se passe facilement? Pas moi, hein. Quelquefois, l'autre, il se déchaîne. Hein. Et surtout quand on fait une bonne œuvre, quand on s'engage quelque part, quand on communique la vie, lui, au village, il nous attend. Mais si nous avons les feux en nous, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra pas nous empêcher d'aller plus loin. Amen. Donc vous voyez, c'est bien parce qu'on peut s'encourager, on peut parler les uns avec les autres, on peut prier les uns pour les autres. Mais chacun parmi nous avons notre combat avant tout. personnel. D'accord ? Personnel. Et puis ensuite, vous avez vu que Jérémie, voilà, il vivait un moment difficile, il était découragé, déprimé, etc. Alors ça veut dire que nous les chrétiens, quelquefois, ça nous arrive, et Dieu aime ça quand on a un combat, on a une difficulté, on ne comprend pas quelque chose, on se tourne vers lui, puis on dit, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je suis révolté. Pas contre Dieu, on est d'accord, hein? Ouais, ça va, c'est bon? On est un peu rebelle, mais pourquoi ça se passe comme ça? Ça vous arrive? À moi, ça m'arrive. Ben encore maintenant, hein? Ah, quelquefois, je mène la bagarre avec Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi de cette façon-là? Pourquoi on ne peut pas débloquer cette situation? Et Dieu nous dit, calme-toi, je suis avec toi. Mais Dieu, quelquefois, il aime éprouver notre foi. Donc voilà. Nous avons droit de se découvrir devant Dieu et lui dire Seigneur, pleurer, crier, discuter avec lui. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Jérémie. Mais le fait que nous avons le feu en nous, le feu, la présence de Dieu ne permettra pas qu'on soit cassé, détruit par notre ennemi. Amen. Et puis ensuite, vous avez vu, il est la question là de feu. Voilà, de feu. Donc on a déjà parlé. Et nous, la même chose. Si nous avons le feu, nous aurons les victoires. Alors voilà, deuxième culte, c'était au Canada. J'ai dit à nos amis, Stéphane, qui nous a vraiment bien accueillis, ils ont tout fait pour nous. On s'attendait à moins que ça. Voilà, je lui ai dit, nous allons au culte à deux, incognito. On va voir comment ça va se passer. Dans un culte où il y a 1800 personnes, et deuxième culte, la même chose, il y a 4000 personnes. Alors normalement, vous rentrez là, sauf si vous êtes invité. Vous rentrez là, personne qui vous dit bonjour, vous rentrez, vous sortez, et c'est comme ça. Vous êtes perdu dans la masse, point. Et ça, c'était le deuxième dimanche. Je me suis réveillé, puis bon, il me reste encore un dimanche. Il faut que je me libère de cet état d'esprit de les vacances. Bientôt, on va devoir arriver, puis on se met au boulot. Hein. Il faut aller. Hein. Alors, j'ai dit, Seigneur, je veux quelque chose d'exceptionnel. Comme ici, souvent, dimanche, pas souvent, chaque dimanche, je demande à Dieu quelque chose d'exceptionnel. Je dis, Seigneur, ou tu me donnes une personne, ou tu me montres la personne que tu veux toucher, ou quand je vais faire un appel pour que tu sois vraiment là, vous comprenez, on discute comme ça avec Dieu, hein, chaque matin, je dis quelque chose d'exceptionnel. Et là, la même chose. Christiane, souvent, elle ne sait pas. Et puis après, elle est agréablement surprise parce que... Et voilà, on arrive là, devant la salle. Et vous savez, il y a le foule qui arrive, hein, les gens qui arrivent là. Et je me suis dit, je ne serai pas là juste comme un visiteur qui rentre et qui sort. Alors, c'est moi qui vais provoquer les contacts. Alors on arrive là, il y a un grand parking, donc il y a les personnes qui sont là pour placer les gens, les voitures, etc. C'est énorme. Et j'arrive là, puis ah, salut, bonjour, ça va toi? Tu as le feu? Oui, c'est bon. Elle m'a dit oui. Bah, écoute, j'ai dit, nous, on vient de France. Ah bon, vous êtes des Français? Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu peux faire une photo? Ah oui, pas de problème. Ah oui, les voitures commencent un peu à faire des ordres. Lui, il est fixé sur nous, et il nous fait une photo. À beau contact, formidable. On continue, on s'avance vers pour pouvoir entrer dans la salle, donc l'entrée avec les gens, etc. Et je me suis dit, bon, bah, je vais pas juste passer comme ça, puis si quelqu'un viendra me dire bonjour, c'est bien, sinon, bah, c'est bien aussi. Ah, bonjour, mon ami. Ah, bonjour. C'est quelqu'un qui faisait aussi le service devant la porte, voilà, habillé, ils sont habillés pour, vous comprenez? Comment? Voilà, avec une veste de sécurité. Et comment tu t'appelles? Mathieu. Ah, Mathieu, ça va? Mon beau-fils s'appelle Mathieu. Ah, ça rigole, tout de suite, c'est comme si on se connaissait depuis avant. Alors, je provoque. Bon, Mathieu, ça va? Bah, écoute, Mathieu, j'aimerais que tu puisses nous faire tu vois, cette dame, c'est ma femme, hein. On est un couple, hein, on est chrétien, on vient de France. Et est-ce que tu peux nous faire une photo? On avait tout ce qu'il faut. Ah oui, oui, oui. Et Mathieu nous fait une photo. Mais vous n'avez pas oublié, quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, quelque chose, un rendez-vous exceptionnel. Vous n'avez pas oublié ça? Alors pour le moment, il y a rien qui se passe. Alors Mathieu est heureux, il me fait... Il nous fait une photo. Il dit, Mathieu, je suis né à Montréal. Mais mes parents, ce sont les Français. Ah, bah, c'est bien. Bon, moi, je ne suis pas vraiment un Français, mais bon. Bon, sur les papiers, je suis Français. Bon, je suis Européen. Ah bon, bah, c'est bien. Il dit, j'ai une famille en Normandie. Ah! Ah! Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ma famille? Rendez-vous d'Iva. T'as compris, hein? Et j'ai demandé au Seigneur. Il dit, juste aller au culte comme ça, c'est très bien, mais moi, je ne vais plus. Rendez-vous d'Iva. Et j'ai dit, oui! Il était heureux, content. Mathieu était content. Il a oublié son service, les jours passés dans tous les sens. Il dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ma famille? Oui, nous avons des amis à une église en Normandie. Tu m'envoies les coordonnées de ta famille et nous allons visiter ta famille et nous allons les arracher de l'enfer, s'ils acceptent. Hein. D'accord? Et encore, là... Quelquefois, on est un peu trop gentil. Parce qu'il faut aller. Hein. Il faut se battre pour chaque personne. Entre nous, nous devons nous soutenir, nous avons nos combats, d'accord? Mais nous devons nous battre aussi pour les gens comme Mathieu, sa famille, etc. Je vais vous donner un exemple. C'était Alexis. Alors, si je me trompe, tu me... rectifie parce que comme on a sept enfants, puis chaque enfant a tellement d'histoires autour que quelquefois je mélange et elle me dit « Mélangé, t'as menti. » Bon, elle dit pas menti. Elle dit « T'es trompé un peu. » Alors nous étions à Strasbourg. C'était à Strasbourg. C'était une vieille histoire parce qu'Alexis était gamin. Il était comme ça. Avec quel âge? 3 ans? 3 ans. Il ne se souvient pas. Il est là-bas. Donc comme ça, vous allez savoir que c'est mon fils. On est à Strasbourg, là, chez toi là-bas. Il y a des braves gens là-bas, des gentils. Voilà, nous étions invités chez des amis, les amis de nos amis. Bon, ça va? Une ferme, excellente, tout ça. Il faisait beau, la table, etc. Voilà, on mange ensemble. Et il y avait une grande piscine. Hein. Grande piscine. Dans la cour de cette ferme. T'as pas vu ça, non? Bon, tu connais pas, d'accord. Et voilà, on est là, puis on discute, on boit quelque chose, le café, je ne me souviens plus. Et toi, tout à coup, Alexis, lui, il était petit, hein. Vous croyez qu'il était petit? C'est vrai, vous croyez? Mais oui, il était petit, mais toi et moi, nous étions petits aussi, hein. Et Alexis, 3 ans. Bing, il est tombé dans la piscine. Nous étions assez loin. Nos filles viennent vite vers nous pour nous dire « Alexis est en train de se noyer, il est tombé dans l'eau. » Alors moi, je cours et j'ai commencé à enlever mes chaussures parce que je nage, mais je ne suis pas professionnel. Je sais que sans chaussures, on nage mieux. Hein. Qui sait nager hein? Qui sait nager? On est d'accord qu'avec les chaussures, c'est difficile. J'enlève ma chaussure, je regarde mon fiston qui est en train de... Et notre ami, lui, il ne cherchait pas à comprendre. Hein. Il a rebondi comme un poisson. Je n'ai pas encore enlevé ma chaussure. Et lui, il était déjà là-bas, il a pris un oxycouchon. Ça va là. Ça va, Alexis? Et il n'a même pas eu le temps de boire de l'eau. Alors pourquoi je vous raconte ça? Imaginez-vous qu'on aurait décidé de poser la question à Alexis. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on vienne te chercher? Qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne lui demande pas. Ce n'est pas lui à décider. Qu'est-ce qu'on fait? Si on les laisse, il va mourir. Nous, on communique la vie. On ne lui demande rien du tout. Il est d'accord ou non? Qu'est-ce qu'on fait? On va lui porter le secours. On les sauve. On les libère. Combien il y a des situations difficiles parmi nous. Alors il ne faut pas attendre, il faut plonger dans les problèmes, plonger dans l'eau, et puis aller chercher celui qui est malade, celui qui a un problème, celui qui a des difficultés, ou celui qui n'a pas accepté Jésus. Il ne faut pas lui poser la question s'il est d'accord ou non. Qu'est-ce qu'on fait? Comme un poisson, on plonge. Viens. Alors, s'il refuse, ah non, je préfère mourir. Ah ben, c'est son problème. Mais nous, nous avons tout fait pour lui apporter le secours. Amen. Alors, mes amis, si Jérémie a réussi, pardon, si Jérémie a réussi, s'il a traversé ses combats, ses difficultés, c'est que pour nous, c'est aussi possible. Nous pouvons aussi réussir. Nous avons nos combats, nos difficultés, mais Dieu est avec nous, le feu de Dieu est en nous. Et Paul dit, si Dieu est avec nous, ben voilà, vous avez dit, qui sera contre nous? Amen. C'est possible. Alors, pendant les vacances, on va beaucoup parler de la réussite, la puissance de Dieu, dimanche prochain. Et au mois de septembre, nous allons vraiment nous organiser Nous allons mettre en place des objectifs, une stratégie d'action pour pouvoir réussir. Il y aura pas mal de choses que nous allons nous dire. Donc, ça sera certainement le dernier dimanche du mois de septembre, ensemble, la reconnaissance des personnes qui ont une responsabilité de leadership pour que nous puissions être efficaces dans l'œuvre de Dieu. Je me souviens plus, c'était quand, il y avait une réunion d'intercession. Et puis il y avait une expression qui était dite, c'est construire la construction. Ah ben, pour construire, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut des ouvriers. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut construire. Ou un club chrétien, ou un bâtiment, un phare, qui est une bénédiction aussi pour les autres. Ou juste un club chrétien, et puis on est ensemble pendant un certain temps autour d'un café, et puis après on va se disputer. Parce que si ça ne grandit pas, ça diminue, ça se détruit. Voilà. Donc il y a des belles choses devant nous. Et si Jérémie, lui, a eu la victoire dans ses combats, dans ses difficultés, et puis comment il a pu continuer à communiquer la vie dans tous les domaines, ben, nous aussi, Dieu nous appelle. Amen. À construire, à aller plus loin. À s'engager. Il y a deux dames qui sont venues vendredi, on était quelques-uns là dans la prière, dans l'intercession, c'était ici parce que là-bas il fait chaud. Et il y a une mère, une maman qui est venue avec sa fille, qui a peut-être une bonne quarantaine. Et je suis allé le voir et puis ensuite on a discuté un peu, ces deux dames, donc la fille et sa maman, sont approchées là-bas et puis la maman elle dit: ah, il y a le baptême ici. Ah, bah oui, il y a le baptistère là. Oui. Ah, ma fille, elle n'est même pas baptisée. Alors, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, tu vois ta maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de Paris. Elle t'encourage. Elle te dit, avance. Prends baptême plus tard. Et ton mari, il est où? Ah, il verra, ça va. Ah bah, viens. Et après, on va prier pour ton mari. Et tes enfants, oui, j'ai deux garçons. Quel âge? 18, 20 ans. Ah, on va prier pour lui. Et je lui ai dit, regarde, à un moment, elle a les cheveux gris. Bientôt, toi aussi, tu auras les cheveux gris comme ta mère. On est d'accord, hein? Comprenez? Regarde, il n'y a pas longtemps, on était tout petits. Regardez comment les années passent. On est tout petit, ado, la jeunesse, les études, le travail. Quand on commence à travailler, on dit, oh, la retraite, quand j'étais jeune homme, c'était, je travaillais à Croix à l'époque, j'avais ma vie professionnelle. Et puis on disait, enfin tous les syndicats disaient, oh là là, vous n'aurez pas de retraite. Et puis je suis arrivé au moment où j'ai quand même ma retraite. Vous comprenez ce que je veux dire? Seulement, quand j'avais 25 ans, j'ai jamais pensé à la retraite. À 25 ans, penser à la retraite? Parce que... on ne pense pas, quand même, non? Je commence la vie, hein, ça fait 2-3 ans que je bosse, je ne veux pas penser à la retraite. Seulement, attention. Les années sont passées... et j'ai dû faire le démarche pour toucher ma retraite. Et j'ai pensé au moment quand j'avais 25 ans et j'écoutais les syndicats qui disaient « battez-vous parce que vous n'aurez pas la retraite si ça reste comme ça ». Vous comprenez? Alors là, à la vie, les années passent tellement vite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Garder le feu en nous, comme Jérémie. Amen. Et en même temps, apporter des solutions aux autres. Quel beau programme. On va se lever ensemble. Seigneur Jésus,